Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Nous nous transportons de nouveau à Québec cette semaine pour un entretien fort sympathique en compagnie de Lise Ferland, une grande athlète devenue grande randonneuse, et de notre serein pèlerin Michel O'Neill. Après s'être adonné avec passion à la natation, à la course à pied et autres sports de compétition et de performance, Lise s'est vue contrainte de mettre un terme à ses activités sportives de prédilection suite à d'importants maux de dos. C'est alors qu'elle a embrassé progressivement l'univers de la marche. D'abord sous forme de promenade dans les parcs, à la campagne et en forêt, mais elle a vite suivi l'appel des grands espaces lointains, au Népal et en Europe, sans oublier le Canada et les États-Unis. Tout en relatant les moments forts de ses grandes aventures pédestres, parfois seule et souvent avec d'autres, Lise nous parle des profonds bienfaits de la marche, de ses projets de voyage à venir et de la nécessité de promouvoir la marche par l'exemple. Pour sa part, Michel décortique pour nous, dans sa plus récente chronique « Des trouvailles du serein pèlerin », une étude de l'organisme Participaction, selon laquelle les Québécois et les Canadiens marchent de moins en moins. Bonne nouvelle toutefois, cette même étude renferme plusieurs pistes de solutions pour nous encourager à intégrer la marche à notre quotidien. Alors, bonne écoute et bonne randonnée! Bonjour Lise et merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui pour marcher vers le bien-être.
Bien, merci Denis de la belle invitation. Je me sens vraiment privilégiée aujourd'hui d'être avec vous, là.
Et nous sommes privilégiés que vous soyez là. De même que Michel, notre serein pèlerin, toujours un plaisir d'être dans votre très belle ville de Québec.
Ah, ça me fait toujours plaisir de vous accueillir aussi, et puis en particulier que ça me permette de retrouver une ancienne connaissance où pendant au moins une session, en tout cas, on a été d'un bord à l'autre de la classe.
Et parce oui. que vous vous connaissez bien, là, quand
pas,
même.
On
pas,
se connaît
très bien, mais...
Finalement, c'est que la situation, c'est qu'il y a une quarantaine d'années, c'est ça,
en
Michel?
Ça.
Oui, Michel a été un de mes professeurs au certificat en santé communautaire. Alors, mais suite à ça, j'ai suivi son parcours. Alors, oui, quelque part, on a des gens en commun là, qu'on connaît.
Et oui.
Alors, nous allons parler de la marche, évidemment.
Évidemment.
Et vous êtes une grande marcheuse, mais avant de devenir une grande marcheuse, vous étiez quand même une grande athlète.
Bien, j'ai eu cette chance-là de faire plusieurs sports de haut niveau. Alors, de la natation, du water polo au niveau canadien. J'ai joué au basketball. Je me suis rendue jusqu'à universitaire, donc le Rouge et Or. J'ai fait le basketball Rouge et Or. J'ai fait du marathon, de la course à pied. Alors, c'est ça. Dans le fond, je suis aussi dans mes études. J'ai étudié en kinésiologie. Et donc, j'étais dans un domaine d'activité physique et de performance. Alors, c'était mes domaines.
Et vous avez travaillé à Kino Québec?
Oui, effectivement, ça m'a amené à travailler à Kino Québec.
Qu'est-ce que c'est Kino Québec?
Kino Québec, c'était le programme provincial du gouvernement du Québec pour faire la promotion de l'activité physique comme saine habitude de vie.
Puis, je crois que ça l'est toujours d'ailleurs, mais peut-être différemment maintenant de ce que ça a été.
Oui, bien le terme Kino Québec a comme disparu là, depuis à peu près une dizaine d'années, mais ça a été quand même un programme qui a été mis en place en 76, puis ça a dû disparaître vers les années peut-être 2008-2009 à peu près. Là. Mais dans le fond, aujourd'hui, il y a d'autres programmes qui ont pris la relève pour faire le même genre, mais la beauté de ce programme-là, c'est qu'on avait des gens partout dans toutes les localités qui faisaient la promotion, effectivement, de l'activité physique et qui aussi créaient des activités, des programmes, que ce soit pour les aînés, les personnes handicapées, que ce soit les jeunes à l'école, etc. Donc, ça a été des belles années pour moi, professionnelle.
Mm-hmm. Est-ce que la marche faisait partie des choses que vous organisiez en termes de promotion ou ça pas tant que ça, finalement?
Bien, ça commençait parce que la marche, il faut dire, à ces époques-là, dans les années 80, début des années 90, il n'y avait pas beaucoup de structures vraiment qui permettaient de faire de la marche. Je donne l'exemple toujours autour de la promenade de Champlain ici à Québec.
Qui est magnifique d'ailleurs.
Qui est magnifique, mais la journée qu'on a rendue accessible, on a vu des tas de gens qui ne marchaient pas tout d'un coup. C'était le même principe, les pistes cyclables. La journée qu'on a mis en place des pistes cyclables, les gens ont sorti leur vélo et ont découvert la beauté de faire du vélo. Donc,
et,
la
même,
marche...
et même d'y marcher à l'occasion, parce et que oui. plusieurs de ces pistes-là sont multifonctionnelles, donc les gens peuvent s'en servir.
Exactement. Donc, les gens, dans le fond, on faisait la promotion beaucoup de la marche aussi pour se rendre à l'école, parce que j'ai eu des années où, lorsqu'on a commencé à Kino-Québec, c'est qu'on commençait déjà à retirer les enfants puis de les mettre plus dans l'autobus que de leur dire d'aller à l'école à pied. Alors, on faisait beaucoup la promotion de corridors pour marcher. Donc, oui, on commençait à faire la promotion de la marche à l'époque, oui.
Et on parle de promotion, mais vous étiez aussi connue un peu comme Miss Kino-Québec.
Bien, j'avais le volet communication, oui. donc j'avais des capsules radio dans les journaux ou même à la télévision, on a fait des émissions. Donc, c'est sûr que les gens me reconnaissaient, me voyaient. Alors, c'est sûr, vu que j'étais le visage, on peut dire, promotionnel là, de Kino-Québec. Alors, c'est...
La Miss Météo de Kino.
Oui, peut-être vu comme ça, là, mais c'est ça. Alors, c'est sûr que je devais promouvoir, c'est ça, tous les bienfaits que, à la fois de la marche, mais de l'ensemble de l'activité physique sur toutes ces formes, là, pas juste sur la forme de marche, mais j'étais quelqu'un qui faisait un peu comme vous aujourd'hui, Denis, la promotion, puis je me suis investie beaucoup là-dedans.
C'était très enrichissant pour vous quand même.
Oui, oui, oh, bien sûr. Ben, c'était mon domaine.
Oui.
C'était... Puis, il faut dire aussi, c'est un domaine avec des gens dynamiques, des gens intéressants, des gens qui de bonne humeur. Je trouve que j'ai eu cette chance-là de travailler dans des domaines positifs, là, si on peut dire, hein, qu'on va vers la santé et tout. Alors, oui, ça a été un privilège ces belles années.
Et à l'âge de 35 ans, il s'est produit quelque chose. Vous êtes passé de la grande athlète à la grande marcheuse, c'est là où votre carrière de marcheuse a commencé, pour ainsi dire.
Bien, c'est sûr qu'avec mon passé d'athlète, je choisissais toujours des activités pour mon plaisir et tout ça, mais il y avait toujours une petite note de performance là-dedans. Hein. On ne sort pas un athlète de ce corps, mais le corps a répondu et le corps a dit « c'est
wow,
assez ».
C'est tout là!
Alors, c'est ça qui a fait que j'ai eu des grands maux de dos. Alors, j'ai dû arrêter beaucoup, particulièrement, je faisais du marathon, de la course à pied et tout ça, j'ai dû arrêter ces sports d'excellence-là. Et là, je me suis retrouvée que la seule activité qui me permettait, si on peut dire, de soigner mes maux de dos et de continuer à être un peu active, bien, c'était la marche. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que je trouvais ça difficile. Je trouvais ça de...
Ça va pas vite.
Ça va pas vite. Puis je trouvais que mon cardio travaillait pas assez, mais finalement, c'était pour moi un virage qui a fait que je me suis mis à apprécier beaucoup la marche, mais surtout la marche en forêt, surtout la marche en montagne, parce que je voulais travailler mon cardio. Alors, c'est là que j'ai découvert toute la beauté de la marche puis tous les volets qu'on pouvait développer aux côtés de la marche aussi. Mmh, mmh. Et ça m'a donné le goût du voyage aussi en même temps.
Ça, on y reviendra. C'est une adaptation qui s'est faite lentement, j'imagine.
Oui, bien, c'est ça. Ça a permis pendant plusieurs années de me remettre en forme en marchant en montagne surtout. Puis, c'est ça, tranquillement, pas vite, bien, ça a été mon mode de vie. Alors, mes loisirs étaient tournés vers faire de la randonnée pédestre, toujours. Je cherchais les moyens de toujours marcher, aller visiter des villes en marchant, etc., etc. Alors, ça aussi, là, ça a changé mon mode de vie, puis ça a changé ma perception aussi de bouger, d'arrêter de vouloir bouger dans la performance, mais de bouger au quotidien dans quelque chose qui me faisait du bien.
Donc, on se détend un peu. Ce n'est plus la performance de gagner des compétitions et d'aller peut-être au-delà de ses forces, mais on ralentit un peu.
Oui, on ralentit, mais en même temps, la marche m'a permis aussi d'aller au-delà de mes forces. Ah. Je donne un exemple dans le sens que on s'est mis à vouloir monter des montagnes, le mont Washington, le mont Lafayette. Je suis allée au Népal, monter différentes montagnes, etc. Donc, ce côté-là est encore en moi, si on peut dire, là, oui. mais...
On ne sort pas la performance de la performeuse.
C'est ça. Je pense que... Mais j'ai été capable de transposer ça, effectivement, dans la marche plutôt que de le faire dans d'autres formes d'activité ou de sport que je connaissais bien à l'état. Que je peux plus pratiquer aujourd'hui. Exemple, je ne peux plus faire du marathon ou de la course à pied. Là. C'est sûr que mon dos...
Lorsque vous marchez il n'y a plus de douleur.
Non, il n'y a pas de douleur pour mon dos.
Donc, ça, c'est intéressant quand même.
Ben, dans le fond, le type de douleur que j'avais, c'est tous les sports de torsion, là, à savoir le tennis, le golf, le badminton, ou bien... je dirais même des fois la natation, hein, ça paraît assez. Il y a quand même un peu de torsion là, quand je nage de façon un peu plus compétitive et tout ça. Là. Alors, tandis que la marche, ben, c'est droit. Hein? Mm-hmm. On marche en avant, donc la torsion n'existe pas, presque pas. Alors, ça a permis tout ça. Alors, il faut que je fasse attention encore aujourd'hui.
Sauf quand on dépose puis on reprend son sac à dos, là, on peut être dans un mouvement qui est.
Exactement, vous avez raison. Effectivement, il faut que je fasse attention malgré tout.
Donc, vous aimez marcher toute seule?
Oui, j'ai découvert ça aussi. J'étais une fille habituellement qui était surtout toujours entourée de gens. Je faisais du sport avec des sports d'équipe, avec des personnes. Et j'ai commencé à apprécier à marcher tout seule. Et j'ai vu tous les bienfaits aussi que ça donne. Je vous dirais que ça a été dans une période où, sur le plan professionnel, j'avais beaucoup de créativité à avoir dans mon travail, puis beaucoup de problèmes à résoudre et tout ça. Et c'est dans l'intérieur de mes marches que je réussissais à trouver toutes mes idées, à trouver toutes mes façons de comment arranger un tel type de problème et tout ça. Alors, j'ai vraiment découvert ça, ce que je vivais pas nécessairement dans le sport de performance. Tandis que dans la marche, là, j'ai comme l'impression que ton cerveau, il se reconcentre tout naturellement sur ce que tu as dans ta tête, puis il trouve le fil conducteur pour réduire, pour trouver tes solutions et tout ça.
C'est un classique. À beaucoup des gens qu'on a interviewés au cours des années nous disent un peu la même chose. Puis moi aussi, j'ai expérimenté ça, dans le fond, que parmi mes meilleures idées de projet de recherche, ben, je les ai eues en marchant. Ça nous met dans une espèce d'atmosphère particulière où on réfléchit, puis on réfléchit pas, puis il se passe des choses, puis pouf, à un moment donné,
Je vous dirais, c'était quasiment une blague. J'avais mon adjoint qui me disait, là, des fois, je disais, ah, telle chose, je trouve pas la solution. Va marcher, Lise. Quand tu reviens, là, tout est réglé. C'était rendu une blague au travail.
Ouais. Et on retrouve une certaine sérénité, surtout après avoir fait un peu le deuil du sport.
Oui, bien, comme je vous dis, j'ai redécouvert aussi la beauté d'être dans la forêt, beaucoup. La beauté d'être tout seul avec moi-même aussi. Ça aussi, là, je trouve que c'est très gagnant. Puis l'autre côté que j'ai trouvé aussi, parce que je marche pas toujours tout seul, j'ai renoué avec des amitiés qui, peut-être au fil du temps, s'étaient effritées. Puis par l'intermédiaire de la marche, bien, les gens m'ont dit « Hey, bien, j'irai marcher avec toi », puis tout ça. Et finalement, en marchant, nos amitiés se sont consolidées et se sont reparties de plus belle. Alors ça aussi, j'ai trouvé que c'était plus que le sport... la marche permettait ça, parce que quand on marche avec quelqu'un, c'est très différent que si on est assis à prendre un café. Les confidences viennent plus facilement, on est plus au naturel, on joue plus un jeu, on n'est plus un personnage public ou autre, là. On est la nature, point à la ligne. Puis en tout cas, ça, j'ai trouvé que ce bienfait-là, là, c'est un beau cadeau de la vie, je vous dirais, là, de revenir avec par la marche. Grâce à la marche, là, j'ai renoué avec beaucoup d'amitié. Là,
Et c'est là où vous avez créé votre groupe des six.
Oui, bien ça, c'est spécial parce qu'on est des filles qui avons fait de la compétition ensemble en basketball Rouge et Or. On est six filles qui avons joué ensemble. Et à chaque 3 ans ou 4 ans, dépendamment, on faisait un voyage ensemble à l'étranger. Et c'était effectivement un voyage pour aller marcher. Soit aller marcher une ville, soit aller marcher une montagne, aller marcher un endroit spécifique. Alors, on s'installe pour une semaine à un endroit et on part marcher la journée et tout ça.
Quel genre d'endroit, par exemple, vous avez fait?
On a fait beaucoup depuis. Là. On a fait le Portugal, on a fait les Cinq-Terres, on s'en va en Écosse au mois de mai. On a fait la Lettonie. On a fait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? La Toscane. On a fait, j'essaie de me souvenir, on a fait Prague. On a visité la ville de Prague. On a fait... J'en oublie.
Quand même, parce que c'était à chaque 4 ans, et puis c'est devenu 3 ans, parce tellement.
On trouvait que 4 ans. Bien, c'est sûr que c'était à chaque 4 ans, parce que les filles, chacune avait leur vie. Certaines ont eu des enfants, d'autres pas, etc. Puis on trouvait que 4 ans, ça permettait. Mais là, depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, là, c'est aux 3 ans, parce que là, on est vers la retraite, et là, on a plus de temps. Puis même, on a décidé que là, on va peut-être passer aux 2 ans, là, maintenant que nous sommes toutes à la retraite, là. Oui, c'est ça.
Et de quoi vous parlez? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se déroule? Et surtout, ce sont les mêmes 6?
Oui, c'est toujours les mêmes 6. Écoutez, on a des vies différentes, hein? On vit dans des villes différentes. On a des parcours différents sur le plan professionnel et personnel. Alors, c'est ça. C'est, on devient des témoins de chacune des vies. Et c'est ça qui fait qu'on parle de nous. On parle, ça devient comme une bulle spécifique, une semaine aux 3 ans, où ce que chacune peut être ce qu'elle est. Sans paramètres, c'est ça, l'instant présent.
Vous me parliez tout à l'heure, avant qu'on entre en studio, que, en fait, ça date de très longtemps parce que vous aviez commencé à jouer au basketball au cégep ensemble.
Oui, exact.
Ensuite de ça, vous étiez, comme on dit en français, le starting five, là, le 5 partant, dans le fond, donc les bonnes joueuses en général, on ne met pas les pires en partant. Et. Vu que vous aviez développé cette complicité-là au cégep en étant de très, très bonnes compétitrices, quand vous êtes arrivé à l'université, finalement, bien, vous êtes toutes embarquées en même temps, toujours dans l'équipe de l'université au Rouge et Or. Donc, c'est une durée là, qui est vraiment très, très longue là, de votre fréquentation.
Oui, c'est ça. On se connaît mieux des fois que nos sœurs ou nos frères parce qu'effectivement, là, on passait toutes nos soirées ensemble, nos fins de semaine ensemble quand on a fait de la compétition. Donc, à l'âge adulte, de se retrouver de temps en temps, mais il faut dire qu'à l'intérieur du 3 ans et du 4 ans, on se voit quand même. On se fait des soupers, des fois avec nos conjoints, des fois pas, etc., avec nos enfants. On se voit quand même. On essaie de se voir 4-5 fois par année au moins. Là. Mais c'est tissé serré. Mm-hmm. C'est vraiment tissé serré. C'est une belle amitié. Alors oui, ça permet ça.
Alors, le groupe des 6 a été créé en 1993. Vous continuez toujours. De voyager. Mais... En l'an 2000, il s'est passé quelque chose de spécial, une nouvelle ère, pour ainsi dire.
Le bug de l'an 2000.
Non? le bug de la marcheuse de l'an 2000. Oui, vous êtes allé au Népal.
Oui, ben j'avais une voisine à Pintendre qui, effectivement, était allée peut-être 2 ans avant au Népal, qui avait fait l'Annapurna, puis qui rêvait d'aller du côté de l'Everest. Alors, elle me dit ça, elle dit, toi, t'es une grande sportive, elle dit, tu viendrais-tu avec moi? Puis tout ça, j'ai dit, j'ai jamais fait ça. Moi, marcher, parce qu'on partait pour 2 mois, j'ai dit, marcher 2 mois, je fais, oh! J'ai dit, je suis pas sûre que je suis capable de faire ça. Elle dit, oui, je te regarde aller, c'est sûr, t'es capable. Puis, j'ai dit, ben ça m'intéresse. Mais là, il fallait quand même organiser ça. Les enfants étaient pas vieilles, mes 2 filles et tout ça. Alors oui, on est parti pour 2 mois. Et ça, c'est comme aussi, c'est une bulle hein, dans une vie parce que tu es vraiment dans un autre environnement. On avait un porteur puis un guide. Puis on est parti à 4 comme ça pendant 2 mois. Puis nous, on n'est pas monté à l'Everest en avion. On est vraiment parti des rizières en bas et tranquillement, on est monté
vers le parc. En s'acclimatant
vers le parc de l'Everest. Puis on a marché les 3 vallées de l'Everest et tout ça. Alors, c'était... Puis c'est un moment où c'est ça, tout ce qui existe, c'est le présent. Hein? Mm-hmm. Je veux dire, il n'existe plus autre chose. Il n'y avait pas de moyen de communication à l'époque. Là, Internet, là, ça ne rentrait pas dans ce coin-là. Là.
On l'oublie souvent, ça.
Les cellulaires et tout ça. Donc, on n'a pas communiqué avec les nôtres tant qu'on n'est pas redescendu à Katmandou. Alors, c'est ça, c'était une très, très belle expérience. Puis c'est là que je pense que j'ai appris puis que je me suis dit... Il faut faire ça régulièrement dans une vie, de revenir à soi, puis de marcher juste pour marcher, puis de prendre le moment présent. Puis je pense que les gens qui font Compostelle font un peu la même démarche, là, tu sais, c'est de revenir sur soi, puis d'être présent à ce qui existe autour. Puis ça a été une belle expérience.
Mais comme dit notre ami Eric, avec qui on parle souvent, qui a beaucoup réfléchi sur Compostelle, se mettre dans cet état-là peut se passer à toutes sortes d'endroits aussi. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être... c'est un peu le choix de se mettre dans cet esprit-là. Mais lui, il comparait ça, par exemple, il disait que il avait beaucoup discuté avec, je ne me rappelle pas de son nom, l'infirmière qui a traversé l'Atlantique à la rame. Là.
Oui, Myriam.
Myriam, je ne sais plus trop.
J'ai oublié son nom.
Mais il disait que la manière dont elle réfléchissait son expérience et la manière dont elle en parlait ressemblait beaucoup à ce que les gens vivent justement dans des parcours comme ceux-là. Alors, c'est vrai pour quand on le découvre comme ça au Népal, ça peut être vrai quand on... Mais il y a des gens à Compostelle qui y vont en course aussi, fait que tu sais, c'est plus un peu une décision de se mettre dans une espèce d'état d'esprit finalement.
Hein. Oui, de s'apercevoir qu'on est capable de faire ça, de se mettre dans cet état d'esprit-là, parce que la société ou nos quotidiens ne nous le permettent pas toujours. Là. Donc, c'est un grand privilège là, de se donner. En tout cas, moi, je me suis donné 1-2 mois. Il y en a qui s'en donnent 6, peu importe. Là, mais ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oui, je veux revivre ça, mais peut-être à échelle plus petite. Là, pas partir nécessairement 2 mois, mais partir des 3 semaines, partir des mois, puis me remettre dans
vos nombreux lieux de voyagement. Êtes-vous déjà allé sur les chemins de Compostelle ou c'est pas encore dans votre...
Bien, j'en ai fait, mais des tronçons, okay. Sans le savoir, okay, ouais. dans les Pyrénées et tout ouais, ça, ouais, mais ouais. Dans ma tête, je partais pas dans le...
Sur le chemin de Compostelle.
Ça donnait comme ça que je me retrouvais là et puis je me suis aperçu que j'étais sur le chemin de Compostelle, mais... C'est ça. Non, j'ai pas fait de Compostelle. Là.
Alors, le Népal, c'était tout nouveau, une expérience vraiment tout à fait nouvelle, avec les voisines, c'est ça? Ça, c'est intéressant aussi. Oui, c'est une bonne façon de, comment on pourrait dire, d'apprendre à connaître son voisinage. Est-ce qu'il y a eu des moments forts, des moments particuliers?
Bien, il y a eu un moment très fort, c'est qu'on s'est aperçu que notre porteur, effectivement, ben, qui parlait juste népalais, on y a appris effectivement à parler des petits mots anglais, puis on s'est aperçu qu'il apprenait très, très vite. Puis on a su par la suite, au fort du voyage, qu'il avait arrêté l'école parce qu'il fallait qu'il travaille pour sa famille. Alors on lui a dit, écoute, tu as beaucoup de capacités, on est prêt à soutenir tes études si tu retournes aux études. Alors on l'a supporté au retour, on l'a supporté pendant 3-4 ans. Et en plus, au retour, on est allé visiter son village. Mmh. Et là, ma copine, qui est très militante et tout ça, a décidé qu'elle créait un organisme au Québec, Collaboration Québec-Népal, pour qu'on puisse aider ce village-là. Et ça existe toujours. Puis je suis toujours sur le conseil d'administration de cette organisation-là. Donc, ça a permis tout ça, là, ce voyage-là, là, d'avoir des répercussions par la suite. Et ça nous a lié beaucoup d'amitié. C'est plus ma voisine. Là. Je suis déménagée depuis plusieurs années de cet endroit-là. Mais on se voit fréquemment par l'intermédiaire de cet organisme-là, tout ça. Là. C'était une belle expérience.
Super. Et qui persiste.
Et c'est qui
est intéressant.
Oui, c'est ça.
Donc, ça donnait des résultats très concrets.
Oui, très concrets. Là,
la marche mène à tout.
Et voilà. On ne sait pas où ce qu'elle nous mène, mais elle nous mène quelque part.
C'est un beau chemin. Alors, Lise, nous allons prendre une courte pause musicale. Et au retour, nous allons parler de cette autre aventure en camper.
Ah, parfait.
C'est bon.
Merci, Denis. Merci, Michel.
Nous sommes en compagnie de Lise et de Michel. Oui, justement, Lise, à la retraite, c'est le temps de partir en camper.
Oui, alors c'est ça. Moi, c'était un projet de retraite de mon conjoint. Et quand moi, j'ai pris ma retraite, on a dit, ça y est, on s'achète un campeur et on part. Par contre, mon conjoint était rendu à l'étape que lui ne marchait plus parce que lui aussi a eu des grands maux de dos et tout ça. Par contre, ça nous permettait de sillonner. On a fait tout le Canada. On est allé jusqu'en Alaska 2 fois, le Yukon. On a fait tous les États-Unis, les parcs nationaux des États-Unis. Nous les avons tous faits, Zion, Bruce, Mesa Verde, etc., etc. Puis, dans le fond, on s'installait toujours quelque part pour que moi, dans le jour, je parte faire de la randonnée seule, puis un bel endroit sur le bord d'une rivière ou peu importe, là, puis je partais. Alors, j'ai fait effectivement un bon parcours de l'Appalachian Trail dans les parcs nationaux. J'ai fait pas mal les randonnées là, qui sont des classiques des parcs nationaux et tout ça. Alors, on partait, nous, à peu près 3 mois au printemps, puis 2 mois et demi à l'automne. Donc, ça faisait qu'on était 5 mois sur la route, puis que moi, ça me permettait de marcher à tous les jours quand on était sur la route et tout ça. Puis pour mon conjoint, lui, il était heureux de conduire, puis venir me déposer à un endroit, me rechercher à l'autre bout du sentier ou des fois l'aller-retour, peu importe, puis de dormir dans des endroits un peu, des fois, nowhere, comme on dit.
Oui, là, oui, c'était votre complice idéal.
Oui, oui, ouais. Puis dans le fond, ça nous rendait heureux tous les deux, ouais. Puis ça permettait, là, c'est ça, c'était notre... notre trip, là, si on peut dire, pendant toutes ces années-là, jusqu'à l'an passé où on a vendu le campeur, effectivement, l'année
passée. À regret.
À regret, oui, mais en même temps, on est rendu à autre chose.
Je parlais de complicité parce que lorsque vous trouviez un endroit magnifique, c'était le temps d'aller cueillir votre complice, votre mari. Pour lui montrer, hein, pour qu'il puisse aussi bénéficier, jouir
dans
de
les
ça,
villes,
là.
C'est ça.
Mais beaucoup dans les grands parcs nationaux. Des fois, je partais, je disais, bon, aujourd'hui, je vais faire tel... Et tout de suite, au bout d'un kilomètre ou deux, il y avait une magnifique chute. Alors, je revenais sur mes pas, puis je disais, ça vaut la peine, viens voir ça, là. Ça, t'es capable de le marcher, c'est relativement plat, viens, mm-hmm. Viens. Faut pas que tu manques ça. Alors, finalement, il faisait le petit parcours, puis après ça, il me disait, OK, salut, tu peux repartir. J'ai vu, ça permettait ça aussi, qu'il puisse voir certains de ces beaux paysages-là. Puis je prenais beaucoup de photos, donc en revenant aussi, je faisais mon petit rapport, comme on dit, là, en photo.
C'était très, très intriguant, parce que ma conjointe et moi, depuis 50 ans, fait que c'est pas un bout, là, on a aussi développé des façons de faire où on fait un peu chacun nos choses, et puis à des rythmes différents. On ne marche pas à la même vitesse. On a fait pas mal de vélos ensemble, mais pas à la même vitesse. Fait que souvent, elle, c'est une artiste, donc on trouvait un coin intéressant. Elle arrêtait là, elle dessinait, puis moi, j'allais chercher l'auto, etc. Fait que c'est un peu les mêmes genres de complicité, finalement, qui se développent, puis qui permettent, justement, que tout le monde y trouve son compte, et puis que personne ne soit frustré parce que ça ne va pas assez vite ou trop vite.
Oui, puis je trouve que dans des campeurs, tu trouves plus facilement cette complicité-là qu'à la maison. C'est bizarre, là, mais... On veut s'assurer que les deux en profitent pas de la même façon, mais autant. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est fou. Hein, ça
il faut s'aimer
ça.
Beaucoup au départ. Hein?
Moi, je dis toujours ça. Là, quand même, hein, quand tu as 3 pieds cubes là, où tu vis, là.
Ouais. c'est un peu la même logique que quand tu es dans un voilier, mais au moins dans un campeur, tu peux aller te promener dans le voilier.
Oh, ouais. Le voilier, c'est plus restreint.
C'est plus restreint. Ouais, oui, aller prendre une marche, là, ça va pas. Là,
ouais. C'est sûr.
Lise, avant d'entrer en studio, et je reviens un peu à vos voyages en Europe surtout, vous nous parliez d'une randonnée un peu ludique à Andorre. Et j'aimerais que vous repreniez un peu cette anecdote parce que je la trouve tout à fait délicieuse.
Mais c'est ça, on est installé à Andorre, puis je dis à mon conjoint, viens me reconduire du côté de la France, parce que c'est limitrophe à la France, puis je vais aller faire...
L'Espagne de l'autre bord.
Oui, c'est ça, il y a l'Espagne d'un côté, puis la France de l'autre côté. Andorre est comme enclavée entre les deux. Et là, par contre, le matin, il dit, on va arrêter ici. Il dit, il y a de l'air d'avoir une petite boucherie. Il dit, juste voir s'il y aurait quelque chose pour le souper pour ce soir. Alors, on arrête. Et puis, je vois une carte qui est accrochée au mur, qui est une carte de tous les sentiers de l'endroit, du petit village en France. Alors là, on regarde les mets préparés. Puis là, je pose la question. J'ai dit, c'est les sentiers? Il dit oui. J'ai dit, aujourd'hui, je m'en vais marcher à tel endroit. Puis tout ça, je lui donne le nom de mon sentier. Non, non, il dit, allez pas là. Il dit, je vais vous indiquer d'autres endroits. Puis là, il prend sa carte. Puis là, il m'indique, vous pourriez aller là. Ah oui, j'ai dit, mon Dieu, vous connaissez ça? Il dit, bien sûr. Il dit, je suis guide de montagne. Ah oui, vous êtes guide de montagne? Oh, OK.
Un boucher guide de montagne.
Oui, c'est ça. Il dit, il faut gagner sa vie. Il m'a répondu ça. Alors, finalement, il m'indique, puis j'ai dit, j'ai un travail pour vous. J'ai dit, à tous les matins, on va arrêter ici, puis vous me choisirez un endroit où je peux aller. Alors, le lendemain, il me choisit. Il dit, est-ce que vous aimeriez ça? Il dit, une sortie ludique. Il dit, un sentier ludique. Oh, j'ai dit, ludique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, finalement, il me dit, c'est auprès d'une chute, puis il dit, il y a des cordes, il y a des petits paliers, là, qui vacille un peu, puis il dit, c'est très bien, c'est très facile, c'est très bien. Ah, parfait. Alors, je pars, puis effectivement, c'était très ludique. Alors, oui, il y avait des cordes de Tarzan pour traverser la chute et tout. J'ai trouvé ça un petit peu difficile, un petit peu très, très ludique. Alors, je suis revenue en lui disant, j'ai pas le même terme que vous, ludique. Mais il faut dire que lui, c'est un guide de montagne qui en avait vu plus que moi, là. Alors, c'est ça. Il m'a redirigé les autres jours à des sentiers normaux. Alors, c'est ça, la petite anecdote.
Oui, très, très délicieuse.
Oui, oui.
Alors maintenant, ce sont quoi, 2-3 voyages par année? Vous allez où? Vous faites quoi? Qu'est-ce qui vous attire maintenant?
Bien, moi, ce qui m'attire, c'est à la fois les villes et les montagnes.
Alors, les deux, oui.
C'est ça. Quand je pars, j'essaie de partir 3 semaines. Puis, comme mon dernier voyage, je suis partie la première semaine, j'ai visité Toulouse à pied. La deuxième semaine, je suis allée avec...
La Ville Rose.
Oui, la Ville Rose, c'est ça. J'ai
c'est
trouvé...
joli.
Oui, oui, c'est très joli. Puis c'est vrai que c'est rose le soir, c'est au coucher du soleil, c'est bien. Puis la deuxième semaine, ma voisine actuelle est venue me rejoindre. On a fait les Calanques, donc entre Cassis et Marseille. Ah. Puis la troisième semaine, j'ai une autre amie qui est venue me rejoindre à Chamonix. Puis on a fait effectivement des sentiers autour de Chamonix et tout ça. Mm-hmm. Et je refais un peu le même scénario là, cette année. Là. Je pars pour Cap-Vert une première semaine avec un couple d'amis. Puis la deuxième semaine, j'arrête aux Açores. Alors ça aussi avec ma voisine toujours qui est venue à l'automne avec moi. Et ma troisième semaine est en Écosse avec le groupe des six là, qu'on a joué au basketball ensemble. Alors mes voyages maintenant se font effectivement autour. Puis c'est drôle parce que quand je décide de partir avec une... Ben, je m'organise finalement pour dire ben, « je suis libre la semaine d'avant, puis je suis libre la semaine d'après ». Puis là, ben, j'ai d'autres amis qui disent ben, « moi j'embarque ». Alors, ça me permet aussi de continuer à nourrir mes amitiés, puis à voyager. Vu que mon mari ne voyage plus maintenant, là, ça me permet, moi, de continuer, de découvrir, puis
de marcher. Est-ce que vous êtes bien organisé pour vos voyages ou c'est un peu...
Improvisation au jour le jour ou...
Bien, on réserve toujours à un endroit spécifique pour rester toute la semaine parce que moi, je trouve que c'est une perte de temps de se trimballer à gauche et à droite. Là. Puis le fait qu'on marche en étoile, tu as le temps de voir pendant une semaine tout autour et tout ça. Alors, c'est juste ça que je vous dirais qui est organisé, parce que le reste, là, on le fait.
Vous décidez au jour le jour, finalement.
Ah oui, totalement. Au jour le jour, on regarde les cartes.
La météo,
ça vaut-tu la peine? On pose des questions aussi aux gens sur place, parce que souvent, quand on décide par nous-mêmes... des fois, on va voir dans des blogs et tout ça pour voir les expériences d'un et de l'autre, mais il y a des petits trésors que c'est juste les gens de la place. Alors, tout de suite, on va à l'épicerie. Moi, je fais toujours ça quand j'arrive. Là, je vais à l'épicerie du coin, puis je dis ça. Hey, on est ici pour marcher, puis qu'est-ce que vous en pensez? Puis, y a-tu vraiment un endroit là, qui en vaut la peine ou un endroit caché là, que personne ne connaît? Puis, il y a des perles là-dedans. Là.
Moi, j'ai découvert quelque chose comme ça d'un endroit aussi inusité que Baie-Saint-Paul.
Ah oui?
Oui. Il y avait des gens de la place, en fait. Il y a un endroit où il y a une chute, où il y a à peu près juste les gens de la place qui vont, qui savent où est-ce que c'est. Et puis, mon petit-fils était en camping dans ce coin-là avec des gens qui lui avaient montré ça. Alors, c'est mon petit-fils qui m'a amené dans un endroit à Baie-Saint-Paul. Pourtant, je suis allé des dizaines de fois à Baie-Saint-Paul. Puis, j'avais aucune idée que ce petit perle de lieu existait.
Moi, c'est un classique. Là. La première soirée, je vais à l'épicerie, puis je pose des questions aux gens de la place. Puis, c'est sûr qu'ils ont des recommandations tout le temps à vous faire parce que il faut sortir des sentiers battus, qu'on veuille, qu'on veuille pas. En tout cas, moi, j'aime ça découvrir autre chose que ce que le petit guide Loney Planet va te donner ou All Trail va te donner. Ils ne sont pas tous listés, là, des fois, ces sentiers-là. Ça vaut la peine, oui.
Mm-hmm. Souvent, ils ne sont pas, justement.
Mais ils ne sont pas, non, c'est
oui.
ça.
Alors, vous êtes une grande marcheuse maintenant, une grande randonneuse maintenant, seule et avec des amis. Parlons un peu des bienfaits de la marche, justement. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que cela vous a apporté depuis une bonne décennie ou deux même?
Bien, moi, je dirais que c'est à la fois mon refuge personnel, la marche, puis c'est à la fois l'endroit où ce que je vais chercher mon énergie. Alors, c'est... Moi, je marche tous les jours parce que je vis en milieu rural. Je vis dans les Appalaches, là. Je vis à Saint-Malachie, puis... moi, je pars de chez moi, puis je peux faire 2 heures, puis je suis chez mes voisins et tout ça, là. Donc, j'ai mes propres sentiers, si on peut dire, autour de moi. Je peux monter le mont de la Crapaudière, je peux aller au mont Rignal, en tout cas, je peux aller dans les sentiers de Saint-Léon-Stendon. Donc, je peux marcher des heures de temps à partir de chez moi. Là, je prends pas ma voiture, rien, puis je marche. Alors ça, je fais ça tous les jours, soit en raquette l'hiver ou en skioc l'hiver, puis l'été en randonnée et tout ça. Alors, c'est mon quotidien, ma marche.
Donc, fait que c'est pas juste les marches ailleurs.
Non.
C'est aussi la marche au quotidien, moi, mais c'est... pas pour se déplacer comme Denis en ville, mais comme pour...
C'est ça, parce que moi, je vis pas en ville. Donc, je vis en milieu rural et tout ça. Donc, c'est mon quotidien. Puis, c'est mon 2 heures à moi. dans la journée. C'est mon 2 heures qui me fait plaisir. C'est mon 2 heures où je suis dans la nature. C'est mon 2 heures où ce que mon corps bouge comme je veux qu'il bouge. Hein. J'ai besoin de tout ça. Puis ouais, c'est pour ça que je dis.
On ne fait pas une vie d'activité physique sans que ça nous continue à nous habiter.
C'est ça. Il faut que je sorte, puis il faut que je sois dehors, il faut que je bouge. C'est sûr qu'il y a des journées que je ne peux pas parce que je viens ici à Québec, puis bon, j'ai d'autres obligations. Je viens voir mes petits-enfants, je fais du sport avec eux autres, etc. Mais quand je suis à la maison, c'est automatique à moins 25 ou à plus 30, peu importe. Je marche, je chante, je fais un 2 heures. Et ça aussi, ça a fait que c'est drôle parce que ça a créé dans mon milieu, on est une dizaine de maisons qu'on longe la rivière Etchemin. Et on a décidé de se faire un sentier qui longe nos 10 maisons. Donc, sur 3 kilomètres, donc ça fait 6 kilomètres aller-retour, chacun de nos terrains, on a développé un sentier.
Chacun son petit bout que ça connecte.
Oui, puis ça connecte. Puis là, ça a fait que les voisins, on est devenus comme une communauté. Puis on se fait des parties au printemps, puis à l'été, puis à l'automne. Puis par l'intermédiaire du sentier, ça fait que les voisins passent chez moi. Puis je passe chez les autres.
Puis bonjour.
Puis des fois, ils sont dehors, puis des fois, ils ne sont pas. Puis on
salue. Aussi, s'il y en a qui partent en voyage, bien, il y a toujours quelqu'un qui a un œil sur la propriété.
Puis là, bon, on est capable aussi de se faire des corvées. On n'est pas gêné de se dire, hey, ben moi, il faudrait que vraiment je fasse ma corde de bois. Parce que, bon, on va y aller. Bon, patati, patata. Donc, ça a créé une petite communauté par l'intermédiaire du sentier de marche qu'on s'est donné comme idée. Puis tout le monde a embarqué tout de suite. Puis, il y en a qui ne marchent pas beaucoup, mais il y en a qui marchent. Puis, pour eux autres, c'est parfait. Là. C'est juste un 3
kilomètres. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les personnes puis que les nouvelles personnes étaient moins réceptives?
Pas encore. C'est pas arrêté. Ça, c'est pas arrivé. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, là, mais ça, c'est sûr. Parce qu'il faut que tu acceptes. Mais en même temps, c'est rigolo parce que souvent, ils viennent avec leurs petits-enfants puis là, ils viennent nous les présenter puis ils viennent nous présenter leurs enfants ou leur cousine qui est venue les voir, etc. Donc, ça a comme créé, parce qu'on est quand même assez distancés là, l'un l'autre là, sur 3 kilomètres. Donc, ça a permis ça. Là. C'est pour ça que c'est vraiment... ça regroupe, ça a comme fédéré, si on peut dire, tous ces gens-là que quelque part, on voyait presque pas. Là. À part nos voisins vraiment immédiats, là, les autres, je peux pas dire que je les voyais beaucoup.
Oui, parce que cet enjeu-là de changement, à des moments donnés, les organisateurs de sentiers le savent. T'sais, des moments donnés, ils ont des droits de passage sur des propriétés, puis là, à un moment donné, il y a un nouveau qui arrive, puis même une clôture ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est sûr. Ouais. Mais absolument, quand tu t'installes comme ça en milieu rural, je pense que c'est assez
probablement
ouvert.
Les gens ont un peu la même vision des choses.
La même vision et tout.
C'est formidable, ce parcours-là. Et je me demande si on pourrait faire la même chose en ville, dans une banlieue, par exemple, créer des petits sentiers où les gens se côtoient plus facilement, plus souvent, pour créer ce dynamisme communautaire.
Bien, moi, je trouve que, c'est à Montréal, en tout cas, ce que j'ai vu, puis je regarde des neveux, des nièces, ils l'ont fait dans les ruelles.
Les ruelles, oui.
Les ruelles ont permis ça. Ouais. C'est pas des sentiers, mais ça a permis de regrouper, de fédérer hein, tout ça, là, par l'intermédiaire des enfants. Ouais. C'est sûr que c'est pas de la marche, là, mais je pense qu'il y a un renouveau.
C'est l'esprit communautaire qui se développe.
Moi, je pense qu'il y a un renouveau là-dessus. Je pense que c'est... Mais je regarde dans les nouveaux quartiers aussi, souvent, il y a des passages entre deux maisons. Là. De plus en plus, les quartiers s'installent comme ça pour que tu puisses...
Connecter. Aller jusqu'au parc, par exemple, ou aller
ça,
jusqu'au centre d'achat, s'il y a question.
Sans aller faire le grand tour par la rue et tout ça.
Oui.
Bon, c'est pas ça fait pas des grands sentiers, mais c'est un élan vers ça. C'est pas parfait, là, mais c'est...
On lance l'idée. Voilà, d'accord. Le temps file, Lise, peut-être une minute ou deux pour parler du prochain voyage, un rêve. J'ai entendu Islande à un moment donné.
Oui, bien, c'est ça. J'ai eu la chance 2 fois 3 jours de louer une voiture, puis en Islande, puis de faire un peu, d'aller voir les chutes et tout, mais je ne l'ai pas marché, là. Je l'ai fait en voiture et tout ça. Puis souvent, là, je regarde des reportages là-dessus.
Oui, c'est très particulier.
Oui, c'est vraiment particulier. C'est ça qui m'attire. C'est un environnement un peu plus sauvage et plus particulier.
Puis aride.
Là. Oui, c'est aride et tout, là. Alors oui, ça m'attire. Mais c'est ça, c'est dans... dans une liste, ça va arriver.
Il y a, en posant cette question-là à quelques personnes récemment, un endroit qui est revenu à quelques reprises, c'est la Mongolie.
Ah oui.
Est-ce que la Mongolie vous attire?
oui. Ben moi, dans le fond, les régions, si on peut dire, plus froides, là, oui, ça m'attire les régions plus froides. Tu sais, l'Islande, c'est le cas aussi, là. Mm-hmm. La Norvège aussi, ça m'attire beaucoup. Mm-hmm. Là, mais c'est ça, c'est des rêves latents, là. Peut-être que ça va émerger, là, une opportunité va arriver, comme on dit. On verra.
Alors, Lise, comme mot de la fin, je reviens à votre belle carrière Kino-Québec, comme Miss Kino-Québec. Comment on ferait aujourd'hui pour promouvoir la marche?
Mais moi, je pense que c'est l'exemple. Moi, je pense que l'exemple, ça paye plus que toute autre chose. Alors, c'est sûr qu'un travail comme vous faites, Denis, c'est extraordinaire. Ça permet de multiplier, là. Mais moi, ce que je vois, que j'ai vu dans ma communauté et tout ça, ça a été par l'exemple. Les gens m'ont vu marcher, puis on se dit « Hey, j'embarquerai, moi aussi. » Puis « Ah, c'est le fun, tu fais des voyages de marche. » »« Ah, j'avais jamais pensé à ça, faire des voyages de marche. » »« Ah, visiter une ville à la marche, rester juste à un endroit plutôt que vouloir tout voir le pays au complet quand
en
on part. »
En 8 jours.
Oui, c'est ça, tu sais, la mosaïque Europe là, en 12 jours, là,
ouais,
c'est pas pour
moi.
Ou
les Français qui viennent ici, qui vont des chutes Niagara, c'est aller ça. Jusqu'à à Bécomo ou à Manic, là.
Alors, je pense que c'est l'exemple. Je pense que, en tout cas, si on est capable, chacun d'entre nous, de donner un exemple pour qu'un suivant, ou soit tes enfants, ou soit tes petits-enfants, soit tes voisins, soit tes cousins, peu importe, moi, c'est ce que j'ai vu qui était le plus promoteur, puis que tu vois les résultats, parce que sinon, ce que vous faites, je ne sais pas jusqu'à quel point vous voyez les résultats, puis c'est sûr qu'il y en a, là, mais on les voit moins. On les voit moins.
Ouais, moins immédiatement.
Oui, tandis que, en tout cas, moi, j'ai cette chance-là de voir qu'il y a des résultats. Je vois des gens qui ne pensaient jamais qu'ils feraient ça dans leur vie, puis aujourd'hui qu'ils le font, là, qui font des voyages de marche, qui visitent des villes en marchant, qui ne vont plus dans les voyages organisés, qui se font eux-mêmes leurs voyages. Donc, ça, je trouve ça intéressant, puis qui ont le goût d'aller faire des 1-2 jours au parc des Appalaches pour aller marcher, puis coucher dans un refuge en disant « j'haïs le camping, mais c'est correct, je vais y aller pareil. » Non, mais c'est ça, là. Je pense que c'est l'exemple qui permet, je pense, de faire des petits, là, puis tout ça.
Alors, Lise, vous êtes parfait exemple.
Bien, j'ai essayé comme j'étais, puis c'était mon métier à l'époque, oui. Alors je me dis, c'était facile pour moi.
Et merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et Michel aussi, merci beaucoup de votre participation. Et on vous écoutera peut-être dans quelques minutes.
Merci. À suivre.
Merci Denis, merci Michel. Un beau moment, merci.
Un grand plaisir.
Bonjour Michel et bienvenue à cette nouvelle chronique des trouvailles du serein pèlerin.
Rebonjour Denis une fois de plus et puis même si c'est sur des nouvelles un peu plus dramatiques dont nous allons parler aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous retrouver.
Effectivement Michel, vous allez nous parler aujourd'hui d'un phénomène assez inquiétant, soit que les Québécois et les Canadiens marchent de moins en moins.
Oui, effectivement. Comme vous savez, Denis, à la fin de 2025, on a vu un article tous les deux de Gabriel Bellan dans la presse qui s'intitulait « La marche recule » avec en sous-titre « Les Québécois et les Canadiens marchent de moins en moins ». Puis comme on est assez motivé, si pour ne pas dire crinqué pour la marche, ça nous a un peu achalé. Là. Puis on s'est dit « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Puis là, ça référait à une étude d'un bulletin annuel de participation le journaliste disait c'est l'évaluation la plus complète de l'activité physique au Canada. Alors, j'ai décidé justement d'aller voir ce fameux bulletin pour regarder ça d'un peu plus près.
Alors, c'est une excellente initiative, Michel. Mais d'abord, parlez-nous de Participaction, cet organisme qui a produit l'étude en question.
Oui, bien, Participaction, moi, c'est dans mon ancien univers de chercheur universitaire en promotion de la santé que nos auditeurs commencent à connaître un peu. C'est un organisme que j'ai bien connu dans mon ancienne vie. Donc, d'abord, comme vous avez pu voir, c'est un organisme dont le nom s'écrit drôlement. Ça s'écrit tout d'un bout, Participation, mais avec le mot action, toujours en majuscule, avec un accent sur l'action. En fait, c'est une organisation non gouvernementale qui existe depuis plus de 55 ans. Et puis, son mandat, j'ouvre les guillemets, c'est « Nous aidons les personnes vivant au Canada à bouger davantage là où elles vivent, apprennent, travaillent et jouent. » fermé les guillemets, puis ont repris un peu là-dedans le libellé de la fameuse charte d'Ottawa en promotion de la santé pour expliquer un peu ce qu'ils veulent faire. Alors, pour en arriver à cette fin-là, ils ont plein de programmes et d'activités de plaidoyer envers les gouvernements pour promouvoir l'activité physique avec toutes sortes de partenaires, à la fois publics et privés. Et puis, on a un petit peu l'équivalent ici au Québec qui s'appelle Kino Québec, qui est plus gouvernemental, mais qui fait à peu près le même genre de choses. Et ces deux organismes-là sont, entre autres, très caractérisés par le fait que les actions qu'ils proposent sont toujours basées sur les meilleures pratiques scientifiquement reconnues. Alors, ce n'est pas des gens qui improvisent des choses. Alors, c'est un organisme qui est très crédible. Et donc, la nouvelle, effectivement, vu que ça venait de Participe Action personne qui avait fait ce constat-là, c'était pas juste du sensationnalisme journalistique. Là, il y avait quelque chose.
Et comme vous dites, Michel, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est un organisme très crédible, mais qui nous alerte face à ce qui semble être un problème réel. Alors, parlez-nous du fameux document qui nous alerte au fait que nous marchons de moins en moins au Canada et au Québec.
En fait, c'est le document, il s'appelle le bulletin annuel 2025. Participe Action fait des bulletins annuels depuis 2008, donc c'est le 17e. Alors, ils ont comme du métier là-dedans. Ça sort à chaque année, mais en alternance. Une année, c'est l'activité physique chez les jeunes, puis une année, c'est l'activité physique chez les adultes. Alors, en 2025, c'était pour les adultes. Et puis, le comité qui prépare ces bulletins-là, c'est à peu près le who's who de qui sont les spécialistes canadiens de l'activité physique dans tous les milieux, en particulier les universités. Donc, c'est vraiment très, très crédible et très bien fait. C'est un document, celui de 2025, de 76 pages. C'est un document qui, même si c'est basé scientifiquement, qui est très clairement présenté. C'est un document grand public, en fait. C'est pas un document de recherche, là. Tout en demeurant tout à fait scientifiquement impeccable. Et puis, son titre, ça met la table, « De la stagnation à l'action, faire bouger le Canada ». Et c'est divisé en 7 chapitres. D'abord, des constats généraux. Ensuite de ça, une introduction, des indicateurs. Les indicateurs, dans le fond, ils ont, pour chacun des éléments qu'ils regardent, ils ont comme un bulletin qui va de A+, qui veut dire entre 94 à 100%, et F, qui va de 0 à 19%. Alors, ils ont vraiment fait l'effort de simplifier, si on peut dire. Leurs constats généraux sont que 46% seulement des adultes suivent les directives nationales sur l'activité physique, donc qui sont 2h30 en moyenne d'activité physique de niveau moyen à élevé par semaine. Fait que 2h30 par semaine, c'est pas tant que ça, mais il y a juste 46% des gens qui font ça. Ils disent aussi que 88% des municipalités n'ont aucune stratégie d'activité physique ou de sport. Et c'est donc là-dessus qu'ils vont continuer à regarder dans les autres chapitres les choses, là. Ils regardent d'abord toute une série de comportements quotidiens, 9 comportements quotidiens, une série de caractéristiques individuelles, 3. Dans un autre chapitre, quels sont les espaces et les endroits et les normes culturelles qui favorisent ou défavorisent l'activité physique? Ils parlent de 4. Puis finalement, les stratégies et les investissements dans un dernier chapitre. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. C'est rigoureux, c'est clair, c'est pédagogique. Ça utilise les meilleures données disponibles recueillies sur de grands échantillons.
Alors, on en vient à la marche. Qu'est-ce qu'on en dit?
Bien, la marche, ça se trouve dans le chapitre où on parle de 9 comportements quotidiens, puis qu'on regarde leur évolution, en particulier en 2021 et 2025. Sur ces 9 comportements-là, il y en a 4 où l'état s'est amélioré. Le renforcement musculaire, puis là, si on revient à notre bulletin, c'est passé de D- à D+. L'équilibre, les activités qui permettent d'améliorer l'équilibre, c'est passé de D- à D. Le transport actif, là, c'est une très grosse amélioration. En fait, ça passe de F à C-, avec la mise en place de façon assez remarquable depuis 4 ans de beaucoup de stratégies de transport actif. Et finalement, le temps sédentaire, là aussi, une grosse amélioration, est passé de F à C-, notamment parce que c'est une nouvelle forme de mesure qu'ils ont pris, mais il y a quand même une grosse amélioration. Alors, quatre comportements qui sont améliorés, 3 qui sont restés constants, la participation sportive de D à D, sommeil de B à B, puis le temps d'écran qui est nouveau, en fait, donc il présume que c'est à peu près constant. Mais là, on tombe dans le plat, en fait, les 2 comportements pour lesquels il y a eu de la détérioration depuis 2021. L'activité physique d'intensité moyenne élevée, de moyenne à élevée, pardon, est passée de C à C moins. Et c'est le pire de tout, en fait, la marche, le nombre de pas par jour qui a passé de C à D, en passant de 52 % en 2019 à 49 % en 2021 à 32 % en 2025, 20 % de moins qu'en 2019, de diminution de la marche.
Bon, ben, c'est un peu désolant tout ça, Michel. Avez-vous des détails?
Oui, bien, en fait, pour chacun des comportements dont on parlait, il parle de 4 choses. Ils font des constats, ils proposent des pistes d'action et des lacunes, des choses à faire en pratique puis de la recherche. Pour la marche, en fait, en gros, il y a à peu près le tiers des gens qui font ce qu'il faut faire, puis les 2 tiers qui ne le font pas. Le seuil qu'ils proposent, ça, c'est intéressant, puis ça peut encourager nos auditeurs. On a déjà parlé du fameux seuil de l'OMS de 10 000 pas par jour, fait, qui n'avait jamais été prouvé scientifiquement, puis était un peu l'artefact d'une campagne publicitaire de la montre Seiko. puis eux autres, ils disaient 10 000 pas à un moment, pas d'une montre, mais d'un des premiers compteurs de pas qui avait été mis sur le marché.
Au Japon,
c'est ça, qui avait dit 10 000 pas. Mais finalement, toutes les recherches scientifiques disent plutôt que 5 500 est le seuil vraiment à partir duquel il y a une certaine différence, puis que pour chaque 1 000 pas complémentaires, il y a une grosse amélioration. Donc, c'est quand même intéressant de peut-être pas... Mm-hmm. C'est sûr que faire 10 000 pas par jour, on n'est pas perdant, là, mais ça peut être encourageant de savoir que le 5 500 est le seuil intéressant.
Tout à fait, oui.
Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 32 % des adultes de 18 à 79 ans qui font ce comportement-là, du seuil de 5 000 pas. Il y en a 35 % des 18-64, mais 22 % des 65 à 69 ans, donc un peu plus quand on est plus jeune. 33 % des hommes, 31 % des femmes, c'est à peu près égal. 25 % des gens qui ont des limitations un peu fonctionnelles qui en font, alors qu'on a 33 % des gens s'ils ne le font pas. 33 % des gens à revenus élevés, presque 10 % de moins quand on a des revenus faibles. Et 24 % des gens qui sont immigrés au pays depuis 10 ans au moins, par rapport à 33 % des gens qui sont au pays depuis plus de 10 ans. Alors, on voit que selon ces différentes variables-là, ça tourne tout le temps autour d'à peu près un tiers, deux tiers. Un tiers qui le font, deux tiers qui le font pas, là, grosso modo. Mm-hmm. Les pistes d'action puis les lacunes, bien, ce qu'on pointe beaucoup encore du doigt, si on en parle constamment à l'émission, hein, comme vous savez, c'est les aménagements environnementaux qui favorisent la marche. Quand on a des trottoirs qui ont de l'allure, quand on a des pistes à réserver aux piétons, quand on a, etc., ben là, c'est toujours, ça améliore déjà beaucoup. Puis, ils proposent aussi comme piste d'action de vraiment populariser l'idée que c'est le 5500 qui est la bonne idée.
Ah oui.
Puis, avec comment aussi, quand on rajoute à peu près 1000 pas de plus, il y a des changements assez significatifs. Donc, l'aspect positif de mettre ça plus en vedette, on peut dire. Et puis, en pratique, ben, il suggère d'inciter que c'est quand même mieux d'en faire pas beaucoup que pas du tout.
Oui.
Et puis d'aller dans différents types d'endroits, que c'est pas juste sortir, marcher dehors, mais qu'on peut, ils disent, on peut danser en attendant que ça cuit dans sa cuisine. On peut, ils suggèrent aussi d'en arriver à l'idée d'une prescription nature, c'est-à-dire que les médecins puissent prescrire vraiment de la marche, pareil comme ils prescrivent d'autres médicaments. Et là, ça pourrait encourager les professionnels de la santé à être un peu plus insistants. Et ils proposent aussi d'avoir de plus en plus de la pratique chez les professionnels de la santé, d'utiliser le nombre de pas par jour comme un signe vital, au même titre que le pouls et la tension. Alors, si le système de santé commençait à faire ça, ça serait un encouragement complémentaire. Puis d'insister sur le processus, pas juste sur les résultats, sur le fait qu'on a peut-être commencé à marcher, on a fait un peu, etc. Puis pas juste, j'ai pas fait nécessairement mon 10 000 pas, j'en ai fait 9 940, puis c'est pas une bonne journée. Et puis d'augmenter un peu ou modérément le 1 000 pas par jour de plus au fur et à mesure que ça peut arriver. Alors, je vous épargne les suggestions de recherche, mais ça vous donne quand même une idée qu'on connaît fort bien la situation, puis on connaît fort bien ses remèdes aussi.
Eh oui. Ah, mais dites-moi, je suis curieux, là. Est-ce qu'on parle des raisons de la diminution?
Oui, bien, en fait, il parle, le rapport, ça s'appelle « De la stagnation à l'action ». Puis les raisons de la stagnation en général, bien, c'est, comme on le sait, le mode de vie moderne là, avec les avancées technologiques qui font de plus en plus que ça décourage, dans le fond, le mouvement dans l'activité quotidienne, en particulier les fameux écrans. La liste des obstacles s'allonge toujours, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'énergie, la difficulté d'accès aux installations, et les investissements au Canada dans l'activité physique ont souvent été à court terme, puis ils ont été un peu fragmentés, fait ça et là. Fait que, il ajoute en plus de ces choses générales-là que la pandémie puis le télétravail, c'est certain qu'on marche moins quand on reste à la maison, on fait moins de pas. Et que on fait pas assez d'efforts de publicité pour le prendre vraiment à bras-le-corps, comme on a pris le tabagisme à bras-le-corps. Alors, vraiment une action plus intense. Alors, c'est pour ça qu'eux autres disent, bien, finalement, la stagnation qu'on observe, ça devrait être un appel à l'action.
Bien, je dirais, Michel, que dans ce contexte-là, le projet Je marche partout que j'ai mis sur pied il y a 5 ans déjà et dont fait partie l'émission Marcher vers le bien-être répond à un besoin.
Tout à fait, Denis, fait qu'on a encore de l'ouvrage.
Oui, absolument. Et tiens, j'en profite, Michel, pour vous remercier de votre merveilleuse collaboration et de votre complicité à l'ensemble des volets du projet Je marche partout depuis maintenant 5 ans. Et alors, Michel, au plaisir de continuer avec vous à promouvoir la marche sous toutes ses formes, en n'oubliant pas marcher pour se rendre au travail, jouer avec ses enfants dans le parc ou même, comme vous dites, danser dans sa cuisine en attendant que le souper soit prêt. Et à bientôt pour votre prochaine chronique des trouvailles du serein pèlerin.
Bien, ça va me faire encore plaisir, Denis. Puis je rappelle à nos auditeurs et auditrices que pour le projet Je marche partout, au-delà de marcher vers le bien-être, vous pouvez toujours vous rendre sur jemarchepartout.com et trouver l'ensemble des choses agréables qu'on peut faire pour marcher et en marchant.
Et voilà. Et bonne marche, Michel. Chers amis, c'est ainsi que je termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Lise Ferland et notre serein pèlerin Michel O'Neill. Merci également à Lisandre Duplé au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio VM ou en différé sur le tout nouveau site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Tolkien. Je ne suis pas perdu, je ne fais qu'explorer. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.